base de l'attitude délinquante de nombreux jeunes passe par l'immoralité sexuelle. Et le fait qu'il existe une relation de cause à effet entre la stabilité de la famille et le relâchement des mœurs est largement prouvé. D'une récente et vaste étude faite aux États-Unis parmi les mères célibataires se dégagent les chiffres suivants. Sur 100 cas de jeunes femmes vivant dans un home, 43 sont issus de parents divorcés, 36 de familles où la mère était trop dominatrice, 15 dont la trop forte personnalité du père avait traumatisé les enfants, et 6 originaires de foyers sporadiquement désunis. Et cette étude conclut, il est évident qu'aucune d'entre elles n'entretenait des relations heureuses et saines avec leurs parents. Deux autres auteurs américains, Elliott et Merrill, dans leur ouvrage sur la désorganisation sociale, disent ceci. Lorsqu'arrive le moment où il faut attribuer une responsabilité à l'attitude et à la conduite délinquante des jeunes membres de la société, on s'aperçoit très vite que le fardeau incombe en tout premier lieu au milieu familial. D'une manière ou d'une autre, le fait est que les parents ont été inférieurs à leur tâche. C'est à la maison que la plupart des premières manières de se comporter et des habitudes de l'enfant se forgent et façonnent sa personnalité. De tout cela va découler les bonnes et les mauvaises adaptations, le bonheur ou le manque de bonheur qu'il éprouvera dans la société en termes génériques. Les enfants en arrivent à refléter le foyer dans lequel ils grandissent. Les disputes familiales ont tendance à être absorbées par leur personnalité, leur apportant ainsi un sentiment de frustration et de désorganisation qui les suivra durant la plupart des années durant lesquelles ils sont encore impressionnables. Très souvent, cela se traduira par une conduite allant à l'encontre des règles établies, autrement dit, la délinquance. Pendant le stade primaire de l'enfance, avant que le bambin soit à même d'absorber le concept du Dieu invisible qui est l'objet de l'adoration de l'homme et à qui il doit une totale allégeance, son père et sa mère font office de Dieu. Et si ces dieux sont mauvais, il est plus que probable qu'il sera lui-même plus mauvais que bon. C'est pourquoi on peut affirmer que l'enfant sera la première et innocente victime de parents dont le sens des responsabilités est faussé. Edgar Hoover, qui fut durant de nombreuses années le chef du FBI, parlait sans cesse sur le fait que dans l'immense majorité des cas, les parents étaient les véritables coupables des actions criminelles de leurs enfants. Il disait également que l'instruction ou la situation financière de quelqu'un ne fait pas de lui un père ou une mère. Sa longue expérience de délinquant lui avait permis de faire une description parfaite des bons parents, de ceux dont les enfants avaient rarement mal à partir avec la justice. Les voici. Premièrement, les parents qui essayent de comprendre leurs enfants et qui trouvent le temps de cultiver leur amour et leur amitié. Deuxièmement, les parents intègres qui font face aux faits, qui vivent selon la vérité. Troisièmement, les parents vivant selon leurs moyens et donnant à leurs enfants des exemples d'économie, de sécurité, de stabilité. Quatrièmement, les parents industriels qui enseignent à leurs enfants que dans la vie, rien ne s'obtient sans effort. Cinquièmement, les parents qui poursuivent des buts valables dans leur vie et tentent d'y associer leurs enfants. Sixièmement, les parents qui ont du sens pratique, qui attirent l'amitié et qui en plus pratiquent l'humour bien compris. Septièmement, les parents qui vivent l'un et l'autre en harmonie et dont les querelles ne regardent pas leurs enfants. Huitièmement, les parents qui ont pour idéal et pour obligation de servir et non pas d'être servi. Neuvièmement, les parents qui sont inconditionnellement loyaux envers leurs enfants, mais qui peuvent exprimer une juste indignation ou les châtier lorsque besoin en est. Le proverbe 13-24 dit « Celui qui ménage le bâton est son fils ». Dixièmement, les parents dont les décisions sont prises non en fonction du désir des enfants, mais de leurs besoins. En commentant les qualités parentales qui précèdent, M. Hoover ajoute ceci. Nous nous sommes aperçus que dans des milliers de cas, les hommes et les femmes possédant ces 10 qualités n'avaient pratiquement jamais d'enfants délinquants. Par conséquent, la mesure la plus efficace à prendre pour arrêter la marée montante de la délinquance juvénile serait d'arriver à convaincre les milliers de parents, de pères, de mères, d'adopter ou de se conformer le mieux possible à ces 10 qualifications essentielles. Un juge des enfants qui mit un jour une brochure intitulée « Comment faire un délinquant ?». Dans cette brochure, il résume certaines règles qu'il déclare être pratiquement infaillibles. Voyons ce que ce magistrat, doté d'une longue expérience, donne comme conseil aux parents pour conduire à coup sûr leur progéniture vers la vraie délinquance. Ne donnez à votre fils aucune espèce d'instruction religieuse ou civique. Ne pensez qu'aux besoins de son corps. Ne respectez pas les femmes en sa présence, ni la loi, ni le gouvernement. Diminuez à ses yeux les vieillards, les tribunaux, la police, les fonctionnaires, l'école, l'église, le commerce, en disant « tout ça c'est de la blague, ce ne sont que des voleurs ». N'exercez jamais aucune discipline constructive et désapprouvez votre femme ou votre mari en présence de l'enfant, de manière à ce qu'il puisse vraiment savoir sur qui il peut compter. Ne le laissez pas discuter de ses projets, de ses problèmes, du plaisir qu'il éprouve à être avec vous. N'ouvrez pas votre porte à ses amis qui pourraient mettre la pagaille partout. Et ne vous occupez pas des endroits où il passe son temps libre. Ne vous en faites pas un copain. Distrayez-vous tout seul, pratiquez un sport seul, sans lui, après tout. Il vous embêterait, n'est-ce pas? Ne le complimentez jamais sur ses louables efforts, de manière à ce qu'il tente d'en faire encore davantage pour vous plaire. N'ayez jamais aucune affection pour lui et surtout, ne lui dites jamais, mais alors jamais, combien vous l'aimez. Il pourrait croire que vous êtes mou, et bien sûr, vous n'aimeriez pas qu'il ait cette impression. Si vous oubliez tout ce qui précède, rappelez-vous tout de même ceci. Soyez un mauvais exemple pour votre enfant. Et lorsque vous lui dites « fais ce que je te dis, un point, c'est tout », ça ne regarde personne, puisque vous ne le faites tout de même pas vous-même. Les parents portent la principale responsabilité en ce qui concerne la direction morale à donner aux enfants. Il est évident que les rendre conscients de leurs responsabilités et éventuellement le leur enseigner semble être un des plus importants moyens de réduire ou de prévenir l'accroissement actuel de la délinquance juvénile. Jusqu'à présent, nous avons démontré que le foyer du délinquant est un des facteurs déterminant son attitude et ses réactions. Nous allons maintenant examiner certaines des causes spécifiques de l'échec des relations parents-enfants, contribuant à la délinquance de leurs descendants. Les parents égoïstes, sans amour, égocentriques, sèment le grain de la rébellion et de l'attitude souvent vicieuse dans le cœur de leurs enfants. La délinquance est essentiellement une forme d'exhibitionnisme compensatoire à l'impression de rejet et d'insécurité éprouvée par l'enfant. Le développement normal de chaque petit être au point de vue émotivité et stabilité passe nécessairement par une impression de sécurité que seul l'amour peut lui donner. Les médecins spécialistes de la santé mentale affirment de la manière la plus formelle que les parents ne peuvent jamais accorder à leurs enfants une dose trop grande d'amour bien conçu. C'est-à-dire qu'il ne peut se confondre avec un sentiment de mollesse. Afin de rester en dehors du chemin qui les conduira plus que probablement vers la délinquance, les enfants doivent constamment se sentir désirés par leurs parents, aimés pour eux-mêmes, et non pas parce qu'ils sont spécialement beaux, intelligents, ou doués pour une chose ou pour une autre. Non seulement les enfants sont hautement influencés par le sens de l'appartenance à une famille, et par l'amour qui en découle et qui leur est prodigué par des parents dont l'entendement est sain. Mais de plus, l'amour qui prouve l'un pour l'autre, leur père et leur mère, influe profondément sur leur comportement futur. Les parents qui se querellent, qui se chamaillent sans arrêt et dont aucun amour ne rayonne sont généralement incapables de donner à leurs enfants l'affection dont ils ont tant besoin, car leur foyer tout entier respire une atmosphère de misère et de détresse morale. Un tel climat est très rarement favorable au développement normal d'un enfant heureux et bien équilibré. Une grande amertume se dégage généralement d'un foyer dont les parents ne s'entendent pas ou qui sont même divorcés. Les enfants de divorcés vivent fréquemment dans une atmosphère de tension, de contrainte. Leur affection se trouve déchirée entre leur père et leur mère, qui étant en conflit ouvert, tente souvent de les influencer. Les décisions du tribunal les obligeant à vivre ou à passer leurs vacances avec l'un ou l'autre de leurs parents, comme c'est si souvent le cas, fait parfois d'eux de véritables tampons entre les conjoints en conflit. Ils en sont les innocentes victimes, victimes de la jalousie, de la haine engendrée par la séparation du ménage. Comment peuvent-ils comprendre tout cela et surtout y voir clair? Ils sont trop jeunes. Toutes ces choses finissent par faire partie intégrante de leur vie. Il n'est donc nullement étonnant que la délinquance juvénile est bien plus importante parmi les enfants de parents divorcés que chez les autres. Une chose cependant devrait retenir notre attention, c'est que les divorces est virtuellement impossible dans les familles où l'amour prévaut.